Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 3, les chemins perdus. Quoique le projet du jeune voyageur lui parût la plus bizarre et la plus absurde de toutes les folies, Jacques Vernier n'en sortit pas moins de l'auberge pour chercher un guide. Aussitôt que l'inconnu se trouva seul dans la pièce que nous avons décrite et où il avait pris son repas, il cessa de lutter contre les terribles et douloureuses préoccupations qui l'assiégeaient. Son visage et son attitude désolée exprimèrent l'accablement morne et profond qui dominait son âme et sa pensée. « Morte ? » murmura-t-il. « Elle est morte ? Ainsi je ne la reverrai plus, cette chère et douce enfant. Je ne la reverrai plus, mon Églantine bien-aimée. Si c'est vrai, si comme ils le disent, elle a quitté ce monde, à quoi bon vivre maintenant ? Et qu'ai-je à faire désormais sur cette terre où elle n'est plus ?» Puis au bout d'un instant, et comme s'il eût voulu se ranimer lui-même, il ajoutait avec ardeur et avec conviction. « Mais non, non, c'est impossible. Églantine est vivante, je le sais, je le sens. Est-ce que toute mon existence, présente et à venir, n'est pas indissolublement liée à la sienne ? Est-ce qu'une voix intérieure ne m'aurait pas crié « Églantine va mourir » ? Est-ce que quelque chose ne se serait pas brisé en moi au moment de sa mort ? Est-ce que dans mes rêves devenus des visions, je n'aurais pas vu son âme m'apparaître, son âme belle et blanche comme elle, et couronnée de fleurs vierges comme elle ? Non, non, c'est impossible. Églantine n'est pas morte. Mais il faut que je parte. Il faut que je sache. Il faut que je voie celui qui seul peut m'apprendre la vérité. Oh, l'accusant, l'accusant, mon héros. C'est moi bien plus que toi qui devrais aujourd'hui me nommer le souci. » Cette sorte de jeu de mots qui se formulait ainsi par hasard dans sa pensée fit sourire involontairement le voyageur et lui parut d'un heureux augure. Il lui semblait que sa tristesse serait bien autrement tenace et sombre si véritablement Églantine était morte. En ce moment, Jacques Vernier rentra dans la cuisine. Il était suivi d'un jeune paysan de 12 à 14 ans, dont le visage pâle et maigre, encadré dans de longues touffes de cheveux très épais et d'un blond si pâle qu'il ressemblait à de la filasse, ne manquait cependant ni d'un certain caractère, ni d'une expression hardie et intelligente. Ce garçon, très grand pour son âge et ridiculement fluet, pouvait se comparer à ces arbres efflanqués qu'on laisse pousser de distance en distance parmi les jeunes coupes et qu'on appelle des baliveaux. Il était monté sur de longues jambes, aussi frêles que celles d'un héron, et muni de longs bras menus qu'il agitait en marchant comme les ailes d'un moulin à vent. Son costume, beaucoup trop succinct par le froid rigoureux, consistait en une veste déchirée, recouverte à demi par une peau de chèvre. Son haut de chausse, percé à jour, bravait ouvertement les lois de la décence, comme celui de l'enfant de cœur chanté par Gresset dans son lutrin. Il tenait à la main son bonnet de laine rayé de blanc, de vert et de rouge. Ses pieds étaient nus dans ses sabots rembourrés de paille. « Messire, dit l'aubergiste, voici Nicolas Paget, qui est le garçon du bonhomme Paget, lequel est mon compère et un très digne chrétien. Le petit n'est point bête, il a de la capacité, et s'il avait seulement 4 ou 5 ans de plus, ça serait une brave recrue pour les corps francs de l'accusant. Tel que le voilà, et pour un écu, il vous conduira dans le vrai chemin. Prenez-le donc de confiance, je réponds de lui, et quand Jacques Vernier répond de quelqu'un, on peut suivre le paroissien les yeux fermés. Oui, pardieu, demandez plutôt, colonel Varoz. J'accepte de grand cœur les services de cet enfant, répondit le voyageur. Sa figure me revient fort, et au lieu d'un écu que vous demandez pour lui, il en aura deux. Nicolas, s'écria l'aubergiste, remercie ce gentilhomme, et viens m'aider à brider le cheval. 5 minutes après, le jeune étranger, après avoir largement payé sa dépense, se mettait en selle. Tandis que Jacques Vernier lui souhaitait heureuse chance et bon voyage, Jeanne-Antoine, la servante aux yeux noirs, debout sur le seuil et les deux bras croisés sur sa poitrine plantureuse, dévorait des yeux le beau cavalier. Ce dernier, tout en s'éloignant, entendit l'aubergiste qui s'écriait d'une voix colère. « Dis donc, toi, et la grosse, Est-ce que ce gentilhomme te doit quelque chose que tu le dévisages de cette façon-là, au lieu d'être dans ton évier à récurer ta vaisselle ? Et la Jeanne Antoine répliquait avec une forte nuance d'ironie et en citant son dicton favori : Tienne, notre maître, un chien regarde bien un évêque. Et tant qu'à la vaisselle, je la récurerai à ce tantôt. Décidément, l'honnête Jacques Vernier n'était pas absolument le maître dans sa maison. Que voulez-vous ? Cet homme était veuf. Le voyageur inconnu, auquel j'espère, peut-être à tort, que mes lecteurs commencent à prendre quelque intérêt, marchait au très petit pas de son cheval, afin de ne pas fatiguer, ou tout au moins de ne pas dépasser le jeune Nicolas Paget, qui, rendu joyeux par la perspective attrayante des deux écus promis, faisait tournoyer sans relâche ses gigantesques bras de faucheux. Il pouvait être 2h30 au moment où le cavalier et son guide sortirent de Champagnole. Le ciel était bas et sombre, couvert de nuées lourdes et grises. Une sorte de brouillard à demi transparent rampait sur le sol et changeait la forme des objets sans les dérober absolument au regard. La gelée avait durci la terre et les fers du cheval résonnaient sur le chemin comme s'il eût été pavé. L'enfant sifflotait un air de Noël rustique. Le cavalier s'absorbait dans une série de réflexions dont le monologue que nous avons mis un peu plus haut sous les yeux de nos lecteurs peut facilement faire deviner la nature et les revirements. Au bout de 2 heures de marche silencieuse, l'inconnu et Nicolas Paget arrivaient à l'entrée d'un bois taillis, très épais. Depuis longtemps déjà, la route se rétrécissait de plus en plus, et elle avait fini par devenir un sentier où 2 personnes auraient difficilement passé de front. En cet endroit, le sentier lui-même semblait s'interrompre. L'enfant s'arrêta. « Eh bien ? » lui demanda le cavalier. « Qu'y a-t-il ? » « Il y a, messire, qu'il vous faut descendre de cheval. Nous voici à l'entrée du bois de Morbier, et tout ce que vous pourrez faire sera de tirer votre animal derrière vous par la bride. Et encore, vous ne passerez pas sans peine, car la sente qui traverse le bois n'est guère large. » L'inconnu suivit littéralement les injonctions de son guide, et il s'engagea à sa suite dans le sentier tracé sous bois. Au moment de pénétrer dans le fourré, l'enfant se signa dévotement. « Pourquoi fais-tu le signe de la croix ?» lui dit l'inconnu. « Parce qu'on prétend, messire, que c'est dans le bois de Morbier que tous les loups-garous du pays viennent s'accoupler. »« Et tu as peur des loups-garous ? » « Je n'en ai point peur, messire, parce qu'il est reconnu que contre une personne qui n'est pas en état de péché mortel et qui fait le signe de la croix, ils ne peuvent rien. »« En as-tu vu des loups-garous ? » ?»« Jamais. Mon père en a vu une fois, mais justement, il avait été la veille à confesse. » Et le maudit ne lui a point fait de mal. » Les difficultés toujours croissantes du chemin interrompirent la conversation commencée. Les branches entrelacées fermaient à chaque pas le sentier. L'inconnu ne les écartait qu'à grand-peine, et quelques-unes venaient d'instant en instant le fouetter violemment au visage. La nuit tombait. Un vent assez vif et glacial, qui s'était élevé avec le crépuscule, déblayait les nuées lourdes entassées dans le ciel pendant tout le jour, et la pleine lune se levait à l'horizon, large et rouge, comme un bouclier sanglant, dans le firmament éclairci. Malgré le froid de plus en plus rigoureux, et quoiqu'il eût été obligé de se débarrasser de son manteau et de l'attacher sur la selle de son cheval, l'inconnu était en nage, et de grosses gouttes de sueur ruisselaient sur son front et sur sa figure. « Ah ça, mais !» s'écria-t-il tout à coup. « Ce n'est pas un chemin, cela ! Personne ne passe donc jamais par ici ?» Personne que les bûcherons et les charbonniers, répondit l'enfant. Les gens de Champagnole, quand ils vont à Saint-Claude, font un détour par Clairvaux. Mais Jacques Vernier m'a bien dit que vous vouliez venir par ici. Avançons-nous au moins. Dame, nous ne reculons point, mais nous n'avançons guère. Dans combien de temps serons-nous hors du bois? Dans 1 heure, ou approchant, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Es-tu bien sûr seulement de ne pas te tromper de chemin ? Oh, pour cela, oui. Je me retrouverai dans le bois de Morbier les yeux fermés. J'y viens assez souvent dénicher des merles au printemps. Enfin, murmura le voyageur en souriant, on est certain de ne faire ici aucune rencontre, bonne ou mauvaise, et c'est une consolation. L'enfant avait entendu. Ah, messire, dit-il, il ne faudrait point s'y fier. Il y a 2 sortes de gens qui passent n'importe où et qui ne craignent guère les mauvais chemins. Ce sont les gris de l'Espinassou le fâcheux et les cuanais du capitaine Lacuzon. Qu'est-ce que c'est que les gris? Ce sont des bandes de la Bresse et du Buguet. Ils ont deux capitaines, l'Espinassou et Brunet, et ils mettent tout au pillage. Et les gens du capitaine Lacuzon, pourquoi les appelles-tu des cuanais?
Parce que tout le monde les appelle comme ça, mais j'ignore pourquoi.
Ce que l'enfant ignorait, nous le savons, nous. Le mot « cuanais » était un diminutif de « sécanais » ou « franc-comtois ». L'inconnu reprit. « Où est-il en ce moment, le capitaine Lacuzon ?»«
Qui le sait ?»«
Comment ? On ne sait pas où il est ?»«
Il est partout ?»«
Que veux-tu dire ?»«
On le croit à Lons-le-Saunier, il est à Saint-Claude. »«
On le voit le matin à Moirans, le tantôt à Champagnole, le soir à Nozerois. »
Je vous dis que le capitaine Lacuzon est plus qu'un homme, puisqu'on est sûr de le trouver à la fois partout où il y a des Suédois, des Gris, des Français, des ennemis enfin. »
L'enfant se tut. Mais qu'est-ce donc en réalité que cet homme ? Se demanda le voyageur. Qu'est-ce donc que cet homme qui, si jeune encore et dans son propre pays, fait rayonner autour de lui ce prestige presque fantastique, et comme les dieux du vieil Homère, marche enveloppé dans un brouillard lumineux ? Puis l'inconnu, silencieux et pensif, continua à se frayer un passage dans la voie presque impraticable qu'il fallait suivre. Enfin, cette partie si fatigante du voyage arriva à son terme. Les taillis s'éclaircirent et furent remplacés par des bois de hautes futaies. Peu à peu, les arbres eux-mêmes devinrent rares et se disséminèrent à des distances irrégulières. Nos deux personnages avaient atteint l'extrême limite de la forêt de Morbier et ils se trouvaient au point culminant d'une côte escarpée, sorte de falaise qui dominait une gorge profonde. La nuit était complètement venue, mais la lune montait dans le ciel. Une lumière bleuâtre et vive inondait les sommets des montagnes rapprochées. Les pics neigeux de la chaîne du Jura et le plateau lui-même sur lequel arrivait l'inconnu et son guide. Ces points éclairés faisaient paraître plus obscures les ténébreuses profondeurs de la vallée qui se déroulaient à leurs pieds. Mais le regard, s'habituant à cette obscurité, ne tardait guère à distinguer un cours d'eau rapide dont un rideau de blanche vapeur suivait toutes les sinuosités. Le versant, roide comme le toit d'une maison, qui conduisait du plateau au fond de la gorge, se trouvant exposé au plein nord, était couvert de neige.
« Messire, dit l'enfant, je vais vous quitter ici. »«
Comment ? S'écria le voyageur stupéfait. Tu veux me quitter ? Et pourquoi ?
Parce que, messire, nous nous rapprochons d'Orcières, et que pour rien au monde, pas même pour sauver ma vie, je ne passerai à Orcières une fois que la lune est levée.
Qu'y a-t-il donc de si effrayant dans l'endroit dont tu parles ?
C'est là que se tient le sabbat, répondit Nicolas Paget d'une voix émue et pleine de terreur.
L'étranger sourit. L'enfant ne put voir ce sourire, mais il le devina.
Messire, murmura-t-il, il ne faut pas rire de ces choses-là, surtout la nuit. Cela porte malheur.
Mais enfin, reprit l'étranger, il a été convenu que tu me conduirais jusqu'à Saint-Claude et que je te donnerais 2 écus.
C'est vrai, messire. Aussi, puisque je ne tiens point ma promesse, vous êtes le maître de ne point tenir la vôtre, et je ne me plaindrai pas.
Pourquoi donc t'engageais-tu vis-à-vis de moi à m'accompagner, puisque tu ne voulais pas le faire jusqu'au bout?
Je ne pensais point, messire, que nous serions en route si tard. Et je ne me souvenais plus que nous étions au temps de la pleine lune.
Et que veux-tu que je fasse maintenant sans guide? Je ne connais pas le pays. Et je vais infailliblement m'égarer et me briser les os, selon la prédiction de Jacques Vernier.
Messire, répliqua l'enfant, de ce côté-là, vous n'avez nul risque à courir. Le chemin est aussi facile à présent qu'une grande route, et je ne vous servirai à rien.
Il n'y a qu'un mauvais endroit, celui où nous sommes, à cause de la descente qui est terrible. Et peut-être bien que votre cheval ne pourra pas s'en tirer. Mais je ne pourrai pas l'aider. Une fois dans la vallée de Morrèze, que voilà sous nous, le plus fort est fait.
Mais il y a une rivière au fond de la vallée.
Oui, la Bienne. Vous descendrez le long du cours de l'eau, jusqu'à ce que vous rencontriez un moulin. En écoutant bien depuis ici, vous l'entendriez faire tic-tac. Et ensuite, à 100 pas au-dessous du moulin, il y a un gué, juste en face d'un vieux saule qui ne vit plus que par son écorce. Vous passerez la rivière. Il n'y a pas plus d'un pied d'eau dans cet endroit-là.
En es-tu certain? Je l'ai passé souvent à la rivière, et je n'avais de l'eau que jusqu'aux genoux. Quand vous serez de l'autre côté, vous gravirez la côte, et vous suivrez la crête de la montagne et la lisière d'un bois de sapin. Ça vous conduira à Longchaumois. De Longchaumois à Saint-Claude, il y a la route. Mais n'oubliez pas, messire, n'oubliez pas de faire une prière quand vous passerez à Orcières, près du communal de la Gire. Et si vous voyez sur votre gauche une grande lumière, mettez votre cheval au galop et sauvez-vous, sans détourner la tête, car cette lumière, ce sera le feu du sabbat. « Tends ton bonnet, » dit le voyageur. « Est-ce que vous allez me donner les deux écus tout de même ?» demanda Nicolas Paget avec un étonnement naïf. « Oui, les voilà. »« Ah, messire !» s'écria l'enfant. « Je prierai de bon cœur le bon Dieu pour vous. »« Eh bien, » répliqua le jeune homme, dont la pensée se reporta à Églantine. « Priez-le d'éloigner de moi la plus terrible douleur que je puisse ressentir. Priez-le de permettre qu'une nouvelle qui m'a été apprise aujourd'hui soit une fausse nouvelle. « Je vais le lui demander tout de suite, et demain encore, et tous les jours, messire. Mais où vas-tu coucher cette nuit? Car tu ne peux songer à retourner à Champagnole. J'irai dans un endroit où bien des gens de nos compagnes se sont réfugiés à l'arrivée des Suédois et des Français, et où je trouverai assez de paille pour me faire un bon lit. Où donc? Dans les grottes du Hérisson. Allons, bonne nuit, mon enfant, et bonne chance. Et vous, messire, bon voyage. Et que Dieu vous garde. » Nicolas Paget s'éloigna d'un pas rapide en agitant ses grands bras. L'étranger sonda du regard la descente véritablement effrayante qu'il lui fallait affronter avec sa monture et que la neige rendait plus dangereuse encore. Il assujettit solidement autour de son bras la bride du noble animal et il le tira en avant. Le cheval, effrayé par ces profondeurs sombres et béantes, se défendit longtemps. Enfin, il céda, et les flancs émus, les naseaux dilatés par la terreur, il s'engagea dans la descente. Les deux tiers environ de cette descente s'effectuèrent sans encombre. Mais arrivé au dernier tiers, le cheval glissa, essaya vainement de se cramponner à la surface unie de la neige gelée, et les jambes de devant raidies, les jarrets reployés sur lui, il fut lancé avec une inconcevable rapidité, comme un traîneau sur une montagne russe, entraînant avec lui son maître qui n'avait point lâché la bride. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la vallée, et par un hasard presque miraculeux, ni l'un ni l'autre ne s'était fait aucun mal. L'étranger se remit en selle avec un sentiment de joie et de bien-être facile à comprendre, et se dirigea vers le moulin pour passer la bienne à ce guet dont Nicolas Paget lui avait parlé et qui devait se trouver en face du vieux saule. Il le trouva sans peine, et il s'assura de la parfaite exactitude des renseignements donnés par l'enfant, car en cet endroit, l'eau rapide et écumante n'arriva même pas à la hauteur des jarrets de son cheval.
Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 4. Le capitaine Lespinassou. Ce passage, heureusement effectué, sembla de bon augure aux voyageurs. Et il gravit sans hésiter la côte rapide et cependant praticable qui formait l'autre versant de la gorge. Pendant près d'une heure, il suivit la crête de la montagne et la lisière du bois, et enfin il arriva à un point culminant d'où il entrevit, aux clartés pâles de la lune, les maisons d'un petit village disséminé sur le flanc d'une colline dont une vallée large et profonde le séparait. Ce village était Longchaumois. Pour l'atteindre, il ne lui restait plus qu'à descendre, ce qu'il effectua sans peine, car le sentier, quoique à peine tracé, n'était ni bien raide, ni bien difficile. Un peu en avant du hameau et à la sortie d'une sapinière, se trouvait une maison presque entièrement semblable à celle que nous avons décrite dans le prologue de ce livre, à cette seule différence près que l'enclos dépendant de cette demeure ne l'entourait pas, mais était situé derrière elle. La porte et les fenêtres s'ouvraient par conséquent sur le chemin. Le voyageur inconnu allait sortir de l'ombre profonde projetée sur lui et sur son cheval par les rameaux touffus des sapins et entrer dans un espace découvert et par conséquent éclairé, quand un bruit soudain et de la nature la plus inquiétante lui fit arrêter court sa monture. Ce bruit ressemblait à un cliquetis d'armes et à un murmure de voix confuses. Des cris et des imprécations se détachaient d'instant en instant d'une façon distincte et tranchait sur l'uniformité de ce tapage monotone. Cliquetis d'armes, murmures et clameurs paraissaient sortir de cette maison située à 40 ou 50 pas et dont nous venons de parler. Des lueurs assez vives jaillissaient des deux fenêtres. À l'époque où se passaient les faits dont nous nous faisons l'historien, il était inutile d'en entendre davantage pour avoir la certitude que quelque catastrophe terrible, que quelque grand péril était proche. Le cavalier se consultait sur le parti à prendre et se demandait s'il devait retourner sur ses pas, car il lui semblait manifestement insensé d'aller se jeter tête baissée dans un péril dont il ignorait même la nature. Sans doute il allait tourner bride, quand un incident inattendu le cloua sur place. Un jeune homme d'une haute taille, d'une tournure singulièrement élégante et dont le visage, éclairé en plein par la lune, offrait une beauté mâle et fière, faisait lentement et avec précaution le tour de la maison et s'approchait de l'une des fenêtres d'où son regard pouvait plonger dans l'intérieur. Là, il s'arrêta et il demeura immobile et attentif, ne se doutant guère qu'il était lui-même observé par notre inconnu. Il avait roulé son manteau autour de son bras gauche et il tenait de la main droite le large chapeau de feutre gris orné d'une plume noire dont il s'était débarrassé pour mieux voir et pour mieux entendre. Ce jeune homme, puisque nous avons dit que cet homme était jeune, avait une tête magnifique, que nous ne saurions mieux comparer qu'à celle de ce duc d'Albe immortalisé par les pinceaux du Titien. Ses cheveux noirs et abondants tombaient sur ses épaules en longues boucles. Ses moustaches noires et soyeuses encadraient une bouche aux lèvres mobiles et impérieuses, garnie de dents éblouissantes. Son teint était d'une pâleur chaude et brune, comme celui d'un Espagnol de Séville ou de Grenade. Une grosse veine se dessinait sur son front proéminent, qu'elle traversait dans toute sa hauteur, allant depuis le sourcil gauche jusqu'à la racine des cheveux. Ses yeux, très grands et en quelque sorte lumineux, semblaient étincelants, enfoncés qu'ils étaient dans des arcades sourcilières extrêmement profondes. Nous avons parlé de la tournure élégante de ce nouveau personnage. La grâce, chez lui, n'excluait point la force. Sa taille élancée et flexible s'élargissait à l'endroit de la poitrine et des épaules, dont les proportions admirables annonçaient une vigueur herculéenne. Ce jeune homme portait des hauts de chausses de drap noir collant, recouverts jusqu'à mi-cuisse par des guêtres de cuir souple qui pressaient fortement la jambe dont elle dessinait les irréprochables proportions et descendait sur les souliers ferrés à semelles épaisses. Le pourpoint était noir comme les hauts de chausses et serré sur les hanches par une ceinture de cuir dans laquelle était passé un court poignard et de longs pistolets. Enfin, un baudrier de cuir noir soutenait une épée très longue et très lourde dont le pommeau formait une croix. Sans doute la scène à laquelle assistait le personnage que nous venons de décrire était dramatique au plus haut point, car les émotions les plus vives et les plus terribles se peignaient sur son visage bouleversé. Parfois, il enfonçait brusquement son chapeau sur sa tête et portait les deux mains sur les crosses de ses pistolets. En ce moment-là, ses sourcils contractés se rapprochaient de manière à dessiner sur son front le sinistre fer à cheval des Red Gauntlets, et ses regards étincelaient d'un feu sombre. Mais, l'instant d'après, il se penchait de nouveau vers la fenêtre et il se remettait à prêter l'oreille avec une fiévreuse et croissante attention. Le premier voyageur, toujours caché par l'ombre des sapins sous lesquels il s'était arrêté, recevait en quelque sorte le contre-coup des émotions qui se lisaient si clairement sur l'admirable visage du jeune homme aux cheveux noirs, et il se sentait pris pour ce dernier d'une subite et bizarre sympathie, explicable cependant par l'expression de franchise, de courage et de chevaleresque loyauté empreinte sur ses beaux traits. Soudain, un cri aigu, vibrant, effroyable, un cri de torture et d'agonie retentit dans l'intérieur de la maison. En même temps, les clartés qui jaillissaient des deux fenêtres grandirent d'une façon prodigieuse. Au cri sinistre succéda un morne silence. Ce silence fut court. Le jeune homme aux cheveux noirs avait pris un parti. De la main gauche, il saisit un pistolet. De la main droite, il tira du fourreau sa longue épée et reculant de 3 ou 4 pas pour mieux prendre son élan, il bondit sur la fenêtre, dont les châssis craquèrent et se rompirent et dont les carreaux volèrent en éclats, et il disparut dans l'intérieur de la maison. Un effroyable tumulte fut la suite immédiate de cette irruption imprévue. On entendit des vociférations infernales, des hurlements enragés, des coups de pistolet, et au milieu de tout ce fracas, le bruit sourd et terrible de la grande épée taillant dans les chairs et tranchant les os. Voici ce qui s'était passé. Une demi-heure avant ce moment, dans la première des deux pièces du rez-de-chaussée de cette maison, qui, disons-le tout de suite, appartenait à Jean-Claude Prost, ou, si vous le voulez, au capitaine Lacuzon, un homme d'une quarantaine d'années, petit et singulièrement contrefait, était assis sur une escabelle auprès de la cheminée où brûlait un feu de racine et faisait couler lentement les grains de son rosaire entre ses doigts longs et noueux. Cet homme, paysan, maladif et inapte à toute espèce de travail, était logé et nourri par la charité de Lacuzon, à qui il inspirait la confiance la plus absolue et qui lui remettait la garde de son logis pendant ses absences presque continuelles. Il se nommait Pellerin. Sans doute, les dizaines interminables du chapelet qu'il égrenait dévotement produisirent à la longue sur Pellerin l'effet d'un narcotique, car peu à peu ses paupières s'alourdirent, ses yeux se fermèrent, sa tête s'inclina d'une épaule à l'autre et finit par se pencher sur sa poitrine en même temps que le rosaire s'échappait de ses mains. Il dormait. Un coup violent frappé à la porte de la maison l'arracha brusquement aux douceurs de ce calme sommeil. « Qui va là ? » demanda-t-il d'un ton mal assuré en quittant son escabelle pour se diriger vers la porte. « Ami !» lui répondit-on depuis le dehors. « Ouvrez !»«
Les amis ont un nom » répliqua-t-il. « Dites le vôtre et j'ouvrirai. »«
Vous ne me connaissez point, » fit la voix. « Je viens vous parler de la part du capitaine. »«
De la part de mon maître ?»«
Oui. »
« Alors, vous devez avoir le mot de passe. »«
Le capitaine me l'avait donné, mais je l'ai oublié. »«
Tant pis pour vous. Vous n'entrerez point. Passez votre chemin. »«
Je vous dis qu'il faut que j'entre. Je vous dis que Lacuzon est en péril. Je vous dis que je viens de sa part. »
Cette réponse, faite d'un ton ferme, ébranla Pellerin. Cependant, avant d'ouvrir, il décrocha une vieille carabine suspendue à la muraille par deux clous.
« Je vous préviens, » dit-il en mettant la main sur le verrou intérieur. « Je vous préviens que je suis armé. Si vous m'avez trompé, si ce n'est pas mon maître qui vous envoie, il vous arrivera malheur. »«
Bien, bien, » répliqua la voix, « c'est entendu. Ouvrez vite. »
En même temps, il poussa le verrou et la porte s'ouvrit. 8 hommes, à figure de bandits, armés jusqu'aux dents et portant, comme les paysans bretons, des peaux de bique sur leurs pourpoints de gros draps gris, firent irruption dans la maison avec une incroyable impétuosité. 3 d'entre eux se jetèrent sur Pellerin, et 1/2 minute après, le malheureux était désarmé et avait les mains solidement attachées derrière le dos.
« Les gris » balbutiait-il d'une voix éteinte. « Sainte Vierge Marie, ce sont les gris !»«
Comme tu dis, vieux coquin !» répondit un homme d'une taille colossale et d'une apparence athlétique, qui paraissait être le chef de ses compagnons. Son visage était hideux. Une profonde cicatrice formait un bourrelet violacé sur sa joue droite, depuis l'angle de l'œil jusqu'à la mâchoire. Un coup de sabre lui avait enlevé une partie de la lèvre supérieure, découvrant ainsi une rangée de dents écartées et pointues, comme celle d'une bête fauve. Ces 2 terribles blessures, reçues dans des combats déjà anciens, écrivaient en quelque sorte un nom sur le visage de cet homme. Et les enfants eux-mêmes, dans la province entière, savaient à qui appartenait cette joue balafrée et cette lèvre mutilée. Aussi, Pellerin, après avoir jeté un coup d'œil sur la figure de celui qui venait de lui parler, cria-t-il, ou plutôt râla-t-il ce seul mot, « L'Espinassou !» C'était en effet ce redoutable L'Espinassou, ce monstre qui de l'homme n'avait plus même le visage et qui partageait avec un autre bandit, le capitaine Brunet, le commandement des routiers sanguinaires de la Bresse et du Bugey. En entendant prononcer son nom par Pellerin, L'Espinassou eut un effroyable sourire d'orgueil satisfait. C'est-à-dire qu'une hideuse contraction souleva le lambeau cicatrisé de sa lèvre.
« Ah ah ! » dit-il, « tu sais qui je suis. C'est bien. Cela va simplifier les choses. Et j'en suis aise, car nous avons peu de temps à perdre. »
Puis, s'adressant à ses compagnons, il ajouta avec un rire féroce. « Fermez la porte, vous autres.
Vous voyez que ce brave homme et moi, nous avons à causer. »
Les gris obéirent. L'espinassou s'assit au coin du feu sur cette même escabelle que Pèlerin venait de quitter. Il jeta sur la table longue qui se trouvait au milieu de la chambre son chapeau au bord retroussé, et passant la main dans ses cheveux laineux et grisonnants, il dit au paysan « Approche !» Mais Pèlerin ne pouvait marcher. Ses dents claquaient de terreur, ses jambes flageolaient sous lui. Il ressemblait à un homme à moitié mort. Deux routiers le prirent par les coudes et le poussèrent brutalement jusqu'auprès de l'espinassou. Pèlerin vacilla pendant un instant comme s'il était ivre, et incapable de rester droit, il tomba sur ses deux genoux.
« Excellente posture pour recommander son âme au diable !» s'écria le colosse. « Et c'est ce que tu auras de mieux à faire, si tu ne réponds d'une façon prompte et satisfaisante aux questions que je vais t'adresser. »
« Je ne sais rien, » murmura le paysan anéanti.
« Ne me demandez rien. Je ne peux rien vous dire. »«
Ah, tu ne sais rien. »
« Non, sur ma vie. »
« Ta vie tient en ce moment à bien peu de choses, et le serment que tu fais là ne t'engage pas beaucoup. Comment t'appelles-tu »
« Pèlerin. »«
Eh bien, Pèlerin, je veux bien te prévenir que si tu continues à ne rien savoir quand je t'aurai questionné, je possède un moyen certain de te rendre la mémoire. Mes hommes, jusqu'à ce que tu te sois souvenu de ce que je veux apprendre, aplatiront ton échine à coups d'épée, de façon à te faire rentrer ta bosse dans le corps. Et tu parleras, j'en réponds, quand je devrais te couper le gosier en quatre pour en faire sortir les paroles. »
Pèlerin roula autour de lui un œil éteint et répéta
« Je ne sais rien. »
« Nous allons voir. Il y a ici de l'argent caché. Où est cet argent ?»«
De l'argent ? Et d'où viendrait-il ? La maison est vide. Le champ est en friche. Mon maître est pauvre. »
« Les nobles du pays sont riches et lui donnent de l'argent pour nous combattre. Nous le savons. Où est cet argent ?»«
Je ne sais pas. »
« Alors, si tu ne le sais pas, je tâcherai de te l'apprendre tout à l'heure. Autre question. Où est l'accusant ?
Je ne sais pas.
Où est Varose ?
Je ne sais pas.
Où est Marquis ?
Je ne sais pas.
Mais alors, décidément, fit l'espinassou avec un ton de bonhomie qui ressemblait à la caresse du tigre, décidément, tu ne sais donc rien.
Rien ? Rien, je ne sais rien.
Bien sûr ?
Oh oui, oui, bien sûr. Je vous jure sur la Vierge Marie. Je ne sais rien.
L'espinassou fit un signe. L'un des routiers, l'épée nue à la main, s'approcha de Pèlerin et glissa la pointe de son arme entre le vêtement et les épaules du paysan, qui poussa un cri rauque.
« Voyez donc, » dit l'espinassou avec un ricanement sinistre, « voyez donc ce chien hargneux qui hurle avant qu'on l'écorche. »
En effet, l'épée du routier n'avait fait que fendre le pourpoint de Pèlerin depuis le cou jusqu'à la ceinture. Mais le froid glacial de l'acier lui avait fait croire que l'épée entamait sa chair.
« Quelle chanson va donc nous chanter ce vieux hibou tout à l'heure ?» continua l'espinassou.
Les vêtements, coupés par le milieu et retombant à droite et à gauche, laissaient à découvert les épaules chétives et la bosse proéminente du paysan. Les gris à cet aspect eurent un accès de gaieté franche, et quelques joyeux quolibets s'échangèrent entre eux.
« Ma foi, » dit le capitaine, s'associant de bon cœur à cette hilarité communicative, « voilà un gaillard bien mal bâti. C'est charité pure que de redresser cette échine tordue qui ressemble à un cep de vigne. Chargez-vous de cette bonne œuvre, mes enfants. Cela vous sera compté dans l'autre monde, n'en doutez pas. »
Cette raillerie piquante obtint un succès fou près des gris, fort connaisseur en fait de jeux d'esprit. Tous, l'épée nue à la main, se rangèrent en demi-cercle autour de Pèlerin, et ils attendirent le signal du maître.
« Brave homme, » dit ce dernier au paysan, « ne manque pas de nous prévenir quand la mémoire te sera revenue. » Puis au routier, « Allez, mes enfants, et faites bien les choses. »
Une épée s'éleva et retomba, puis une autre, jusqu'à ce que toutes les sept eussent frappé du plat de leur lame la peau brune et parcheminée du malheureux. Et ce fut alors au tour de la première de s'élever et de retomber de nouveau. Bientôt, chaque épée traça son sillon bleuâtre dans l'endroit qu'elle touchait. Bientôt, chaque lame, en se relevant, enleva un lambeau de chair. Pèlerin poussait des cris sourds et se tordait comme un serpent, mais sans venir à bout de se relever. De seconde en seconde, l'espinassou lui disait « Où est l'argent ? Où est l'accusant ?
Où est Varose? Où est Marquis?
Pèlerin, au milieu de ses hurlements, répondait
« Je ne sais pas !»
Et l'espinassou reprenait en s'adressant au gris. « Allez, mes enfants, allez toujours. Vous voyez bien que sa bosse n'est pas encore rentrée et que sa mémoire n'est pas encore revenue. » Et les épées continuaient à monter et à descendre avec une régularité diabolique et une cadence infernale. Au bout d'un instant, le bruit sec et sifflant qu'elle produisait en heurtant la chair changea de nature. On eût dit alors qu'elle fouettait une boue liquide, et chaque coup faisait jaillir une rosée sanglante, si bien que les gris frappaient de la main droite et de la gauche essuyaient leur visage moucheté de sang. Pèlerin ne criait plus. Un tressaillement convulsif secoua ses membres. Ses yeux tournèrent dans leurs orbites et il tomba en avant, le visage contre terre.